La Fouano 68. Démonstration et substance. Le 4 mars 2018. Brian Kozurek. Pasteur. Ce matin nous réexaminerons la foi et pour texte. Nous prendrons Hébreux 11.1. Hébreux 11.1. Or la foi Esther la substance des choses qu'on espère. La démonstration, la preuve. La conviction. Démonstration, de celle qu'on n'y voit pas. Or, j'ai déjà parlé de la foi comme étant la substance et nous vous avons montré que ce mot substance a été traduit du mot grec hypostasis qui a été également traduit dans Hébreux 1.3 par le mot personne, en parlant de la personne même de Dieu. Or, en parlant de Jésus, le Fils de Dieu, nous lisons, et qui, étant le reflet de sa gloire, le Saïs y parle de celle de Dieu lui-même, et qui, étant le reflet de sa gloire, la gloire de Dieu. Et nous savons que ce mot gloire Esther le mot grec doxa, qui Esther les opinions, les valeurs et les jugements de Dieu. Ainsi, Jésus Esther le reflet ou le mot grec, apogasma qui signifie le rayonnement, qui signifie un éclat ou rayonnement étincelant, ou une brillance. Par conséquent, nous voyons que le Fils de Dieu premier-né Esther n'est pour être l'expression, la déclaration même des opinions, des valeurs ou des jugements de Dieu. Et non seulement pour exprimer les opinions, les valeurs et les jugements, mais aussi pour être l'illumination même pour le genre humain. Dans son sermon, vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, revenant d'Im, 29 mars 59, à frère Branham dit, 21 la façon dont Dieu s'est représenté lui-même en Jésus-Christ a démontré ce qu'il a fait pour toute la race humaine. Il a exprimé son opinion à la race humaine, afin de pardonner et d'aimer ceux qui ne méritaient pas d'être aimés. Et je me demande, en ce matin de Pâques, à quel point nous avons manqué à cela. Nous pouvons aimer ceux qui nous aiment, mais lui a aimé ce que Néhémie l'aimait pas. 22 Elle a été la plus grande et la première représentation de l'amour qui s'est offerte à la terre, et il a été méprisé par ceux qui vivaient sur la terre, par ceux qu'il aimait. Aucun homme n'a jamais pu aimer comme lui, et aucun homme n'a jamais été âgé comme il l'a été. Ils l'ont âgé et méprisé et ils l'ont rejeté, mais cela n'a pas arrêté son amour. Il l'aura hier, lorsqu'il était suspendu à la croix, après avoir vécu cette vie où il n'avait fait que du bien, pardonnant aux coupables, guérissant les malades et faisant seulement des choses qui étaient bonnes. Lorsqu'il s'apprêtait à rendre son dernier soupir sur la croix, les crachats de vulgaires moqueurs qui se tenaient là descendant sur son saint visage. Il cria d'un cœur plein d'amour, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, combien je désire que mon image change et soit comme son image, et que ma gloire se change en sa gloire. Car lorsque je suis changé, je serai alors mature comme lui, et je ne regarderai pas les circonstances par lesquelles je passe, mais je garderai l'objectif à l'esprit, et le motif de cet objectif, et c'est-à-dire celui de voir tous ceux que j'aime être sauvés, et d'aimer tous ceux avec qui Dieu me fait entrer en contact durant le pèlerinage de ma vie. Et nous savons que si nous devons atteindre l'adoption, nous allons changer d'image en image et de gloire en gloire, devenir comme le Fils premier-né. Or, l'apôtre Paul nous a parlé de ce changement d'image en image et de gloire en gloire dans 2 Corinthiens 3.15 jusqu'à ce jour. Quand on lit Moïse, un voile Esther jeté sur leur cœur, 16 mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile, l'aveuglement est ôté. Pendant les 2000 dernières années, il y a eu un aveuglement couvrant les cœurs ou la compréhension des gens, mais Dieu a prédestiné un temps pour ôter cet aveuglement et il l'a promis ici et nous savons que cela vient à travers le ministère de Malachi 4, quand l'esprit d'Élie doit restaurer le cœur ou la compréhension des enfants à la compréhension et à la doctrine des pères de la Pentecôte. Malachie 4.5 Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour est grand et redoutable. S'il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur, la compréhension, des enfants à leurs pères, de peur que je n'ai mis vienne frapper le pays d'interdit. Dans toute la Bible, le mot cœur et compréhension sont synonymes, comme nous le voyons dans les versets suivants. Colossiens 2.2 Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Daniel 10.12 Il me dit, Daniel, Néhémie craint rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et s'estère à cause de tes paroles que je viens. Ésaïe 44.18 Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils n'aient mis voix point, et le cœur pour qu'ils n'aient mis comprenne point. Proverbe 8.5 Stupide, apprenez le discernement, insensé, apprenez l'intelligence. Proverbe 2.2 Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence. Un roi 3.9 Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal acquis. Car qui pourra juger ton peuple, ce peuple si nombreux? 12 Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on n'aimera verra jamais personne de semblable à toi. D'autre part, quand la Bible parle de manquer de compréhension, elle parle d'un cœur qui a été endurci, comme nous le voyons dans les versets qui suivent. Job 17.4 Car tu as fermé leur cœur à l'intelligence, aussi Néhémie les laisseras-tu pas triompher. Éphésiens 4.18 Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance, qui estère en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Actes 28.27 Car le cœur de ce peuple estère devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils n'aient mis voix de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils n'aient mis comprennent de leur cœur, qu'ils n'aient mis se convertissent, et que je n'aie mis les guérisse. Jean 12.40 Il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils n'aient mis voix des yeux, qu'ils n'aient mis comprennent du cœur, qu'ils n'aient mis se convertissent, et que je n'ai mis les guérisse. Ainsi, vous voyez, lorsque nous voyons la parole de Dieu parler du cœur, elle dit toujours que la compréhension ou le manque de compréhension dépend du cœur. S'il a été endurci et Néhémie peut pas comprendre, ou s'il est doux et flexible. Pour voir cela dans la vie réelle, observez juste la mentalité libérale des gauchistes ou la mentalité des extrémistes de droite, et vous verrez qu'il n'y a pas du tout de flexibilité dans leur position. Ils voient les choses de manière telle qu'ils n'aient sont ouverts à rien d'autre qu'à leurs notions préconçues. Vous le voyez dans la science, et dans l'éducation et dans presque tous les aspects de la vie. Appliquez-le à la religion et amplifiez-le, et voilà pourquoi vous voyez que beaucoup de guerres étaient dues à la doctrine religieuse, et ils vous tuent pour n'aimer pas avoir été d'accord avec eux. Et s'estère parce que, comme nous avons lu dans 2 Corinthiens 3. Si vous êtes baptiste, vous avez un filtre baptiste ou un voile baptiste sur vos yeux et vous n'aimez pouvez que voir le dogme baptiste. La même chose s'applique à toutes les dénominations. Ils ont un filtre dans leur dénomination sur les yeux de leur compréhension. Comme Paul dit dans Éphésiens 1.18 et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et frère Branham a défini l'esprit dénominationnel comme si vous ne m'y voyez pas avec mes lunettes, Vous n'y voyez rien du tout. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie l'un 6 décembre 65-66, et, remarquez, les gens ont manqué de voir la confirmation des prophéties de la parole de Dieu, qui était en train de s'accomplir. Si ces sacrificateurs, ils avaient prévu avec exactitude comment le Messie allait venir. Ils savaient ce qui allait arriver. Les pharisiens avaient leurs propres opinions, les sadducéens, les hérodiens, et oh, ils avaient leurs opinions, mais n'est-ce pas venu. Il est venu contrairement à chacune d'elles, mais parfaitement en accord avec la parole. Jésus dit la même chose ici, si vous m'aviez connu, vous auriez reconnu mon jour. Si vous aviez connu, vous auriez. Vous dites, eh bien, Moïse. Nous avons Moïse. Il a dit, eh bien, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. 67. Mais, voyez, alors que Dieu confirmait exactement ce qu'il avait promis, eux s'étaient imaginé que Jésus était censé venir d'une façon distinguée là. Je veux dire le Messie. Le Messie devait venir directement à leur groupe, sinon il n'était pas le Messie. Eh bien, aujourd'hui, c'est pratiquement le cas, si vous ne m'y regardez pas avec mes lunettes, vous ne m'y voyez rien du tout. Voyez, et il en est exactement ainsi. Nous, c'est vrai. Nous n'aimons pas dire cela, mais c'est la stricte vérité. Ainsi, en revenant à 2 Corinthiens 3 et en prenant au verset 17, nous entendons l'apôtre Paul dire, 2 Corinthiens 3.17. Or, le Seigneur s'estère l'esprit, et là où estère l'esprit du Seigneur, là estère les libertés. 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons dans le miroir de la parole de Dieu, nous voyons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Ainsi, nous voyons que le Saint-Esprit nous mène de l'image de qui nous sommes à l'image de celui que nous voyons dans la parole. Il nous mène de notre propre gloire, de nos propres valeurs et de nos propres jugements aux opinions, valeurs et jugements même de Dieu que nous voyons dans la parole de Dieu. Comme Paul nous enseigne dans Romains 12.1-3, que nous sommes transformés par le renouvellement de leur pensée. Romains 12.1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ou comme le NIF le dit, ce qui estère votre acte spirituel. De Néhémie vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ou peut-être devrions-nous le dire ainsi, de Néhémie vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de la pensée, afin que vous discerniez la volonté de Dieu qui est bonne, acceptable et parfaite. Et puis Paul nous dit que cela change la façon dont nous agissons, et même la façon dont nous nous percevons, quand il dit, « Trois par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Quelle mesure? La mesure? La même mesure que Christ. Nous n'y devons pas vivre selon une mesure de foi différente de celui du Fils de Dieu. Nous devons vivre par la foi du Fils de Dieu. Point. La même révélation. Nous sommes des fils de Dieu. Dans son sermon, l'identification mère 23 janvier 63 frère Branham dit, 152 si vous aviez vécu à cette époque-là, à quel groupe vous seriez-vous identifié? Aux prophètes qui avaient la parole confirmée, quoiqu'ils fussent minoritaires? Ou, auriez-vous suivi les gens qui suivaient l'opinion publique? Eh bien, je vous assure, je crois que cet homme est fou. Et l'unique façon pour vous de pouvoir savoir qu'il n'était pas fou, c'est que le même Dieu vous révèle la même chose qu'il avait révélée à Moïse. C'est l'unique canal. Car, Christ est-il l'image ici sur terre, afin que vous puissiez voir Dieu dans un homme, l'image de Dieu exprimée parce que Dieu était en lui à tel point qu'ils étaient un. Et maintenant, lorsque Christ est parti, il a sanctifié l'Église, afin que celle-ci prenne sa place à lui et qu'elle exprime la parole de Dieu. Vous voyez, c'est l'unique façon pour que cela puisse se faire. Oh là là. Et alors qu'il poursuit dans l'identification mère 23 janvier 63 frère Branham dit, 154 auriez-vous suivi la masse populaire qui avait l'opinion publique? Pourvu que je sois membre d'église. Et peut-être, comme j'ai dansé dans l'esprit, je suis un ordre. Peut-être, comme j'ai parlé en langue, je suis un ordre. Ou peut-être, nous avons un bon pasteur, et je suis un ordre. Eh bien, ces choses sont logiques. Je n'ai rien à redire à cela. C'est vrai. 155 Mais ce plan du salut est une affaire individuelle qui vous concerne, vous. Le parler en langue, c'est un don de Dieu. Danser dans l'esprit, c'est la présence et la gloire de Dieu. Mais vous, vous devez laisser votre caractère être modelé à l'image de Dieu afin qu'il se projette lui-même et que vous soyez son idole marchant sur la terre, une image exprimée de lui-même. 156 Eh bien, auriez-vous aimé faire cela au temps de Noé? Ou auriez-vous été du côté des critiqueurs, critiquant et le prophète et son message envoyé de Dieu? Maintenant pensez-y. À votre avis, dans votre état présent, de quel côté vous seriez-vous donc rangé? Eh bien, soyez sincères. Frère Branham Toussaint D.E., excusez-moi. Ça n'est misère à rien que j'essaie de dire cela. Vous devez y penser, vous-même. Or, en revenant à notre texte, nous prenons dans Hébreux 1.3 et l'image exprimée de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et nous voyons que le même mot grec hypostasis a été employé dans Hébreux 11.1 en parlant de la foi comme étant la substance, et puis nous voyons que la foi est la personne. Maintenant, ce matin, je veux examiner l'autre mot par lequel l'apôtre Paul définit la foi. Car il dit que la foi n'est pas seulement la substance de la personne de Dieu, mais la foi est aussi la démonstration de ce que nous n'y voyons pas physiquement. Hébreux 11.1 Or la foi est la substance des choses qu'on espère, la démonstration, la preuve, la conviction, tire l'évidence de celle qu'on n'y voit pas. Et c'est cette démonstration que nous souhaitons examiner ce matin, étant donné que ce mot démonstration est totalement différent du mot substance. Comme la substance parle de la personne de Dieu, notre foi est en lui et il est la parole. Mais la foi étant la démonstration, parle de quelque chose de totalement et complètement différent. Parce que les mots substance et démonstration sont deux mots différents et signifient donc deux choses différentes. Or, le mot grec qui a été traduit comme le mot démonstration est le koel signifie preuve, conviction, évidence. Alors décomposons ces mots pendant un instant. Lorsque nous parlons de la foi comme étant la preuve des choses qu'on n'y voit pas, puisque le mot preuve signifie la preuve nécessaire ou satisfaisante pour établir que quelque chose est vrai, ou pour produire la croyance en la vérité de quelque chose. Quand nous parlons de la foi comme étant la conviction des choses qu'on n'y voit pas, nous voyons que la foi est une croyance fixe et ferme. Par conséquent, quand nous parlons de la foi étant la démonstration des choses qu'on n'y voit pas, nous voyons alors que la foi, notre conviction, est quelque chose qui rend clair ou évident, et elle est une indication ou un signe de ce que l'œil physique n'y peut pas voir. Ainsi, nous examinons la foi comme quelque chose qui, bien que cela soit dans la pensée, dans la croyance, dans la conviction, cependant, elle est plus réelle que ce que nous voyons dans notre dimension. Frère Branham l'a appelé le sixième sens. Parce qu'elle n'est ni peut-être perçue par les cinq sens. Mais elle vient du cœur, et elle vient d'un cœur qui a été illuminé de la parole de Dieu. Le troisième exondim 30 juin 63 M 95 La raison essayera de son mieux pour reconnaître. Eh bien, ce système doit s'améliorer. Cester cela. Cela sonne mieux parce que vous regardez avec un esprit intellectuel. Vous pouvez démontrer le raisonnement, mais vous n'y pouvez pas démontrer la foi, car si vous pouviez démontrer cela, ce n'y serait plus la foi. Mais la foi n'y connaît que la parole et la promesse, et elle regarde à cette chose-là que vous n'y voyez pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on n'y voit pas. Vous n'y pouvez pas raisonner. Je n'ai peut pas démontrer comment cela s'accomplira. Je n'ai mis c'est comment ça va s'accomplir. Je n'ai mis le sais pas. Mais je le crois. Je sais que c'est ainsi. Parce que Dieu l'a dit. Et cela règle la question. C'est pourquoi je sais que c'est vrai. Je sais que la parole est vraie. Je sais que le message est vrai. Car il est dans la parole. Et je vois le Dieu vivant si mouvant pour la confirmer. Messieurs, nous voudrions voir Jésus mère 11 décembre 57-55 l'un des organisateurs. Docteur Vell et moi, nous avons discuté pendant une heure et demie l'autre jour. Il chercha à dire que l'espérance et la foi, c'est la même chose. Je disais, non. L'espérance est ce que vous attendez, tandis que la foi est ce que vous avez pendant que vous espérez. C'est exact. Certainement. Ce n'est plus une espérance, une fois que vous avez cela. C'est à vous. C'est en votre possession. Vous avez cela, vous êtes tout aussi heureux que possible, car c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Eh bien, cette petite femme a dit dans son cœur, sa foi a dit, si je peux le toucher, cela me suffira. Amen. Oh, j'aurais bien voulu que nous ayons cette foi-là à Newark ce soir. Si je peux le toucher. Pouvez-vous le faire? Oui. Il est le souverain sacrificateur, il vit toujours pour intercéder. Qui peut être touché par les sentiments de nos infirmités. Touchez-le et voyez si c'est vrai ou pas. Voyez si nous disons juste cela pendant qu'on se tient ici. Voyez si la parole est vraie. Si ce n'est pas vrai, comment? Où êtes-vous? Quelle espérance pouvez-vous édifier en vous-même? Vous voyez ce qu'il essaie de dire ici? La foi est la substance des choses qu'on espère. Ainsi, Dieu nous donne une promesse en cette heure, et notre croyance dans la parole de Dieu active dans notre cœur de croyant une espérance qui est une vive attente de recevoir cette promesse. Mais une fois que vous l'avez reçue, vous n'avez plus à l'attendre avec ardeur, parce que c'est déjà à vous. Ainsi, l'espérance prend fin quand vous avez reçu la réalité de la promesse attendue. Mais la foi est même plus puissante que notre espérance parce que la foi est la démonstration qui est une œuvre déjà achevée. Et cela se fonde sur notre croyance en la réalité infaillible de la parole vivante de Dieu. Dans son sermon « Que faut-il pour mener une vie chrétienne ?» dit 13 janvier 57 frères, Branham dit, 35 Le Saint-Esprit posera chaque acte comme Christ. Il vous rendra semblable à Christ. Les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la gentillesse, la patience, la foi. Ce sont ces choses que le Saint-Esprit contrôle, nos émotions. Nos émotions Néhémie consistent pas tellement à sautiller. Vous pouvez le faire. Cela peut être produit en vous par du boucan. Mais le Saint-Esprit vous met en action, ou plutôt vous place sous le contrôle de Dieu, de telle manière que vous marchiez en paix et dans l'amour, dans la joie, avec longanimité, bonté, douceur, gentillesse et patience. Voyez-vous, ce n'est pas quelque chose que vous faites. C'est quelque chose que le Saint-Esprit fait en vous. Vous voyez, ce n'est plus votre propre pensée intellectuelle, c'est une action du Saint-Esprit dans le subconscient. Oh! Je souhaiterais crier des louanges à Dieu à travers le monde pour cela. Église du Dieu vivant, c'est là que notre mouvement pentecôtiste a failli. Nous avons une musique faite de mains d'hommes, l'émotion suscitée par le battement des mains et le sautillement. Qu'arriverait-il si, en retournant dans la rue, le Saint-Esprit n'amène pas nos vies à collaborer avec cela? C'est que nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas du lait écrémé. Mais, frère, c'est ce dont l'Église a besoin. La vie Néhémie peut venir que par le Saint-Esprit. Regardez, Romains 8.11 nous dit 11 « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Vous voyez? Alors, ce n'est pas vous qui contrôlez les mouvements de votre corps, mais son Esprit en vous qui vous fait vous mouvoir de vouloir et de faire. Philippiens 2.13 Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Alors, je vous implore, mes frères et sœurs, de toutes vos forces, de toute votre âme, de toute votre pensée, de chercher Dieu pour obtenir son Saint-Esprit, car Jésus a lui-même dit, celui qui a faim et soif de justice sera rassasié. Il l'a dit dans Matthieu 6.33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 7.7 demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Luc 11.9 et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Acceptez la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin Marc 15 janvier 63, 191 et bien. C'est ce que nous sommes censés faire. Si je vois une promesse dans la Bible qui est la parole de Dieu, alors je reste bien là, criant à haute voix jusqu'à ce que Dieu me donne cela. Et il le fera pour se débarrasser de vous. Vous voyez? Ça, c'est dans le naturel. Mais il veut que vous le fassiez. Il veut que vous demandiez, demandez beaucoup, afin que votre joie soit parfaite. Ouais. Ouais. 192 Criez jusqu'à ce que sa parole soit confirmée. Eh bien, amis, observons juste un instant maintenant. Criez jusqu'à ce que la parole soit confirmée. 193 Le problème en Esther, que nous recevons un biscuit et nous pensons que c'est tout ce qu'il y a. Il y a toute une table pleine. Nous en arrivons à parler en langue et nous disons, oh, frère, c'est ça. Oh, non. Ce n'est pas ça. Ça, c'est juste une portion de cela. C'est vrai. Oh. Je suis assez heureux pour crier. Ça, Sister une portion de cela. Mais il y en a plus. Continuez simplement à corps et à cri jusqu'à ce que 194 de Sester ça la voie à laquelle Dieu a pourvu pour son peuple. La voie à laquelle Dieu a pourvu, Sester toujours de prendre sa parole. De s'y accrocher jusqu'à ce qu'elle vous soit confirmée. Eh bien, me suivez-vous? Dieu, une voie à laquelle il a pourvu, s'accrocher à la promesse jusqu'à ce qu'elle soit rendue manifeste pour vous. Fils de David, aie pitié de moi. Mère 15 février 61-38 Nous pensons que nous épuiserons ces abondantes bénédictions. Nous nous disons, eh bien, j'ai demandé à Dieu de me donner mon pain quotidien. Je n'ai mais devrais pas lui demander trop de choses. Oh là là! Pourriez-vous vous imaginer un petit poisson d'environ cette longueur? Là en plein milieu de l'océan? Dire, une minute? Je ferais mieux de boire cette eau avec modération. Je pourrais en manquer un jour. Pourriez-vous vous imaginer une petite souris d'environ cette grosseur sous les grands greniers d'Égypte? Dire, je ferais mieux de Néhémie me permettre qu'un demi-grain de blé par jour. Il se pourrait que j'en manque avant la prochaine récolte. Oh là là! Eh bien, cela pourrait. Multipliez simplement cela par 100 milliards, et essayez d'épuiser la bonté et la miséricorde de Dieu. Il essaie d'entrer de force en vous. Tout ce qu'il peut. Demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. Il veut que son peuple soit heureux, en lui demandant de grandes choses, en croyant à de grandes choses. Vous êtes une ville établie sur une montagne, avec de grandes ambitions, de grandes attentes. Eh bien, miséricorde. Même si nous voyons les aveugles recouvrir la vue ce soir, je veux voir les morts ressuscités demain soir. Certainement. Et je veux. Je continue simplement de croire pour de plus grandes choses. Quand l'Église commence à recevoir le Saint-Esprit et à parler en langue, pourquoi vous arrêtez-vous à cela? Oh là là! Continuez simplement à avancer. Allez jusqu'à la terre promise. Nous sommes en route pour la terre promise. Assurément, Néhémie prenait pas juste une chose. Vous dites, eh bien, nous allons simplement. Avez-vous parlé en langue? Eh bien, vous n'avez pas une grande bénédiction tant que vous n'aurez pas eu. Eh bien, vous devriez être maintenant même 1 million de kilomètres de cela sur la route. Assurément, de plus grandes choses, et de grandes attentes. Certainement. Écoutez, Paul dit dans Romains 8.15, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. C'est l'Esprit lui-même, il parle de l'Esprit de Dieu, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voulez ça? Demandez. Combien ici aimerait voir sa vie être tellement remplie de son esprit, que toutes vos pensées sont de Dieu? Combien d'entre vous aimeraient voir un réel mouvement du Saint-Esprit dans votre propre vie? Combien d'entre vous sont fatigués de demander et de n'aimer pas recevoir? Alors demandez abondamment. Cherchez et vous trouverez. Frappez et il vous sera ouvert. Mais vous devez frapper et frapper et frapper. Et quand vous avez une réponse, frappez encore plus fort jusqu'à ce que vous ayez tout reçu. Observez l'attitude de frère Branham. Il a dit, même si nous voyons les aveugles recouvrer la vue ce soir, je veux voir les morts ressuscités demain soir. Certainement. Et je veux. Je continue simplement de croire pour de plus grandes choses. Vous croyez tous que vous avez son esprit vivant en vous? Alors vous êtes des enfants, n'est-ce pas? Ses enfants. Puis, si vous êtes ses enfants, alors Paul dit, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. 18. J'estime que les souffrances du temps présent Néhémie sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en qui? En nous. Selon la Bible du roi Jacques. Note du trad. 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Observez les enfants par exemple. Les petits-enfants, même vos bébés. S'ils veulent du lait, ils crient jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. S'ils veulent une couche sèche, ils crient jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. S'ils veulent qu'on les porte, ils crient jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Néhémie négocie pas avec maman. Il pousse des cris. Ce n'est-ce pas un jeu pour un bébé? Ce n'est-ce pas un power trip pour un bébé? C'est-ce un besoin? Et maman satisfait ce besoin. Néhémie pense pas, eh bien, si je crie pour du lait, il se peut qu'on n'y change pas ma couche, parce que j'en demande trop. Alors je dois choisir ce que je veux. Ou si je crie pour qu'on change ma couche, il se peut qu'on n'y me porte pas. Néhémie font que crier et crier et crier jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Il continue simplement de demander, et de frapper jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. En fait, Jésus a dit dans Matthieu 18.3 et dit, je vous le dis en vérité, si vous n'aimez vous convertissez et si vous n'aimez devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. 4 Sester pourquoi? Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. 5 Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. 6 Mais, si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin, et qu'on le jeta au fond de la mer. Et il nous a aussi dit que lorsque nous allons à Dieu, nous devons être comme cette veuve qui a continué de frapper à la porte du juge inique. Luc 18.1 Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et n'aimer point se relâcher. 2 Il dit, il y avait dans une ville un juge qui n'aimait craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. 3 Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. 4 Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même, quoique je n'aimie craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. 5 Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle n'aimie vienne pas sans cesse me rompre la tête. 6 Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. C'était Dieu Néhémie fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? 8 Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Lorsque Dieu a placé un besoin dans votre cœur, et que vous avez vérifié votre objectif et votre motif, et que vous voyez que c'est la volonté de Dieu, parce que vous le voyez dans sa parole, alors vous êtes poussé par votre désir d'obtenir et de satisfaire ce besoin. Et lorsque vous êtes poussé par le désir, il n'y a rien qui se tiendra entre vous et la chose qui vous pousse. Lorsque vous êtes poussé, tout ce qui se tient entre vous et ce désir n'existe même pas dans votre pensée. Et c'est la démonstration en soi de la chose qu'on espère. La démonstration ou la preuve que la promesse est pour vous. Que vous savez intérieurement que Dieu vous a donné cette chose. Il l'a promis dans sa parole et il l'a vivifié dans votre esprit. Et il n'y reste qu'une seule chose. Et c'est que cette parole commence le processus de manifestation de cette promesse jusqu'à ce que cette promesse vienne de la dimension de votre âme aux 5 dimensions dans lesquelles vous vivez. Vous n'aimez savez comment Dieu le fera. Mais vous savez qu'il l'a promis et vous croyez que c'est pour vous. Et vous n'aimez regarder qu'à ce que sa parole en a dit. Et plus vous nourrissez votre esprit de cette parole de la promesse, Puis elle arrose cette promesse et donne vie à cette promesse jusqu'à ce que cette promesse Naomi puisse plus rester cachée, mais doit se manifester. Quand Rebecca est revenue au puits et a abreuvé les chameaux d'Eliezer, sans le savoir, elle abreuvait la puissance même qui la transporterait chez elle, à son époux promis, Isaac. Genèse 24.42. Je suis arrivé aujourd'hui à la source, et j'ai dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, 43 voici, je me tiens près de la source d'eau, et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, 44 bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. 45 avant que j'eusse fini de parler en mon cœur, voici, Rebecca Esther sortie, sa cruche sur l'épaule, et Esther descendue à la source, et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. 46 et Esther empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule, et elle a dit, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu, et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Maintenant, prenons au verset 61, afin de voir l'accomplissement de la promesse. 61 Rebecca se leva, avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux, et suivirent l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca, et partit. 62 Cependant Isaac était revenu du puits de la charge roge, et il habitait dans le pays du Midi. 63 Un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux, et regarda, et voici, des chameaux arrivaient. 64 Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et descendit de son chameau. 65 Elle dit au serviteur, qui est-ce cet homme, qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est Esther mon Seigneur. Alors elle prit son voile, et se couvrit. 66 Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. 67 Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère, il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac, après avoir perdu sa mère. Jéhovah Jireh de 26 juillet 6256 comme Rebecca abreuva ce chameau dans la fraîcheur du soir. Eliezer Néhémie l'avait pas découverte le matin, il Néhémie l'avait jamais découverte à midi, il l'avait découverte au temps de la lumière du soir. Au temps du soir, la lumière paraîtra. C'est Esther vrai. C'est Esther à ce moment-là qu'il l'avait découverte. Elle s'était voilé le visage. Elle n'avait pas de tête, elle allait vers sa tête. Amen. C'est Esther cela la nature de la femme, c'est Esther sa nature. C'est Esther dans la nature d'une femme de s'abandonner à son mari. Et c'est Esther dans la nature de l'Église de s'abandonner à Christ, de s'abandonner à sa volonté, de s'abandonner simplement. Elle n'a pas de pensée qui lui soit propre, elle reçoit sa parole à lui, pas celle d'un autre. Si elle l'avait fait, nous n'aurions jamais eu à mourir, mais elle avait écouté les raisonnements. Mais la vraie épouse de Christ accepte la direction de Christ, la parole. Et Néhémie croit qu'à la parole de Dieu. Si Esther est la vraie épouse restaurée. Alléluia. Il est Esther presque l'heure, mes amis. Il est Esther plus tard que vous n'avez aimé le penser. Nous sommes au temps du soir. Le Saint-Esprit est Esther ici ce soir. Je sais que c'est Esther un petit groupe. Un tout petit. Question et réponse numéro 3 d'Hymne 30 août 64 M253 et ainsi, ils se rendirent là. Et cette jolie Rebecca sortit pour puiser l'eau et il pria et abreuva le chameau et tout le reste. Puis, Vous remarquerez que Rebecca avait le dernier mot devait revenir à Rebecca. Il demanda au père de lui donner la jeune fille. Il demanda à la mère de lui donner la jeune fille. Et ni l'un ni l'autre Néhémie pouvait consentir. Eux voulaient qu'elle reste encore quelque temps. Il dit, Néhémie ne me retardez pas dans mon travail. 254 et Rebecca devait faire son choix. Parce qu'il a dit, c'est Esther elle, la jeune fille, qu'elle fasse son choix. 255 et aussitôt que cela lui fut présenté, rapidement sa décision fut prise. Elle dit, j'irai. Et elle, monta sur le chameau et partit à la rencontre d'un. Regardez, le chameau même qu'elle avait abreuvé Esther, celui qui la transporta vers son époux et vers tout son succès. Et le chameau même, la puissance même de la bête dans la Bible représente la puissance. Et la puissance même à laquelle nous donnons l'eau et la louange. Amen. Voyez-vous? L'eau, la vie, la louange, la parole. Esther bien la chose qui nous transporte au pays de la gloire pour rencontrer l'époux. Oui, monsieur. Amen. Attends la venue de cet heureux jour du millénium, lorsque notre Seigneur béni viendra pour enlever son épouse qui attend. Combattre ardemment pour la foi, qui a été transmise au sein une fois, pour toute dîme 14 juin 53 p. 77 et la belle Rebecca Esther sortit. Et il a dit, maintenant, que celle qui abreuvera ses chameaux, a-t-il dit, Seigneur, soit celle que tu as choisie. Et là, Rebecca alla abreuver les chameaux et leur donna à boire, et puis, elle abreuva son l'animal. Regardez, l'animal même qu'elle abreuvait. L'animal représente une bête, évidemment, une bête de somme, ce qui représente la puissance, dans la Bible. Et l'animal même qu'elle abreuvait, c'était l'animal même qu'il avait transporté, pour voir son époux. Esther sevrait, et abreuvait, c'est Esther quoi? La puissance même que nous abreuvons maintenant des louanges, des actions de grâce, de gloire, de puissance, de force. C'est Esther le Saint-Esprit même qui vous transportera pour aller voir Jésus un jour. Pourquoi nous n'émis sommes pas une dénomination? Psaume 27 septembre 58 39 avez-vous remarqué Rebecca? Quand Eliezer a trouvé Rebecca, c'était au temps du soir et elle a abreuvé le chameau. En effet, Eliezer avait dit, la jeune fille qui viendra et abreuvera ce chameau sera celle, et qui me donnera à boire, sera celle que tu as choisie, Seigneur, pour être l'épouse de ton serviteur, Isaac. Et tandis qu'il était encore en prière, Rebecca arriva, puisa de l'eau et lui donna à boire et abreuva le chameau. Remarquez, le chameau était une bête. Et cette même bête qu'elle abreuva fut celle qui la transporta vers son époux, Isaac. Maintenant, pour conclure, permettez-moi de lire dans le sermon de frère Branham question et réponse jeudi 12 janvier 61 316 si vous avez bien remarqué, dans Matthieu 18.10. Il parlait de considérer les petits enfants. Il y avait de petits enfants, de petits gamins, âgés de 3 ou 4 ans. Il les prit. On lui amena des enfants, enfants. Enfant vient du mot enfant. Un enfant. C'est Esther juste un petit être, non pas un nourrisson, mais c'est Esther entre cela et un adolescent. Voyez, il n'est pas encore responsable de lui-même. 317 a bien, il a dit, gardez-vous de le mépriser. Si vous prenez la vraie interprétation de ce mot, c'est Esther maltraité. Voyez, maltraiter l'un d'eux. Vous Néhémie devriez jamais maltraiter un enfant. Ce sont des enfants, ils sont ignorants. Voyez-vous? 318 et remarquez maintenant, il a dit, car ils, leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est Esther dans les cieux. Vous voyez? En d'autres termes, leurs anges, leur alors messager, leur corps angélique vers lesquels ils vont quand ils meurent, sont continuellement devant la face de mon Père qui est dans les cieux. Voyez? Maintenant, nous allons changer notre message pour avoir un service de consécration pour le petit Iris Rachirer. Et pendant que le frère Josué et la sœur Oda Schirer s'avancent avec leur petit bébé Iris Ray, permettez-moi de lire dans le sermon de frère Branham enseignement sur Moisdim, 13 mai 56 où il a dit, 316 Nester ce pas beau? Maintenant, Jésus aime les petits enfants du monde. Donnez-nous la mélodie, sœur. Et que notre pianiste s'avance maintenant pour jouer cet air. Chantons tous ensemble maintenant. Retournez-vous, vous tous, vers moi, vous, les petites filles. J'aimerais chanter Jésus aime les petits enfants du monde. Combien connaissent cela? Très bien. Chantons maintenant. Jésus aime les petits enfants du monde. Tous les enfants du monde. Le rouge et le jaune. Le noir et le blanc. Ils sont précieux à ses yeux. Jésus aime les petits enfants du monde. Frère Branham parle de la consécration de nos enfants. Il dit dans son sermon Les Esprits Séducteurs d'hymne 24 juillet 55 14 maintenant. La ligne de conduite que nous essayons de suivre. Ici au tabernacle. C'est Esther le seul endroit au monde où je vais. Où je prêche la doctrine. C'est Esther ici au tabernacle. Parce que c'est Esther ici notre église. Et nous prêchons la doctrine ici. Pour garder les gens alignés. Les autres hommes. Dans leurs églises, ils prêchent ce qu'ils croient. Et ce sont mes frères, et nous pouvons avoir de petites divergences entre nous, mais n'empêche que nous soyons quand même frères. Et, mais si, au tabernacle, nous prêchons ce que nous considérons être la doctrine biblique. Et, là-dedans, nous voyons, pour ce qui est Esther de la consécration des enfants, ce que nous appelons une consécration, la seule fois, dans la Bible, que nous pouvons trouver, ou dans le Nouveau Testament, où des petits-enfants aient jamais quoi que ce soit à voir, ou que Christ a eu quoi que ce soit à voir à ce sujet, dans une cérémonie, c'est Esther qu'il les a pris dans ses bras, qu'il leur a imposé les mains et les a bénis, et il a dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Néhémie les en empêchait pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Luc 18.15 On lui amena aussi les petits-enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. 16 Et Jésus les appela, et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Et Néhémie les en empêchait pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. 17 Je vous le dis en vérité, quiconque n'y recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Marc 10.13 On lui amena des petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. 14 Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants, et Néhémie les en empêchait pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. 15 Je vous le dis en vérité, quiconque Néhémie recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. 16 Puis il les prit dans ses bras, et les bénit, en leur imposant les mains. Matthieu 10.13 Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. 14 Et Jésus dit, laissez les petits enfants, et Néhémie les empêchait pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. 15 Il leur imposa les mains, et il partit de là. Maintenant, alors que j'impose les mains au petit Iris Rachirer pour accomplir les Écritures, inclinons ensemble nos têtes dans la prière. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, novembre 2020. Veuillez adresser toute correspondance, ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.